Cet épisode est sponsorisé par nous-mêmes. Les Infaillibles, c'est un podcast et c'est aussi un cabinet de coaching. En coaching, on fait quoi ? Nous accompagnons nos clients par le questionnement et le feedback pour que chacun place son énergie au bon endroit. En coaching individuel ou collectif, nous répondrons à votre demande avec une approche sur mesure, pragmatique et orientée solution. Notre offre phare s'appelle le programme 6e sens managérial. C'est un accompagnement unique en son genre, dédié à votre équipe de managers. Si vous rêvez d'un collectif de managers aligné, solidaire, courageux et légitime, et oui, rien que ça, n'attendez plus et contactez-nous sur LinkedIn. Bon allez, l'autopromotion, ça suffit. Place à l'épisode. Bienvenue dans Les Infaillibles, le podcast des managers qui se racontent avec authenticité. Nous sommes Sandy Mélamed et Estelle Zakarian. Anciennes managers dans la tech et le conseil, et aujourd'hui coach en entreprise, nous nous sommes fixés pour mission de résoudre un problème majeur. Que les managers puissent être authentiques et arrêtent enfin d'endosser un costume qui est tout sauf confortable pour eux comme pour leurs équipes. Si comme nous vous pensez que manager est un job à part entière qui n'est pas toujours évident, ce podcast est fait pour vous. Être manager nécessite de se connaître et parfois de vivre des situations qui bousculent. C'est donc pour vous aider à y voir plus clair, mais aussi pour vous sentir moins seul, que dans chaque épisode, un manager vient partager sans langue de bois son expérience du management et ses conseils pratiques pour vous inspirer dans votre quotidien. Si vous aimez l'épisode qui va suivre, partagez-le et mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous ajouter dans vos favoris Deezer ou Spotify afin de faire connaître notre émission en lui permettant de remonter dans les classements. C'est un moyen simple et rapide de contribuer à notre mission. En attendant, installez-vous confortablement et c'est parti pour le témoignage du jour. Bonne écoute! Dans ce nouvel épisode, nous recevons Jérôme Thieu, directeur commercial chez Adobe France, en charge de l'offre Expérience Cloud. L'offre Expérience Cloud, c'est la suite applicative proposée par cet éditeur de logiciels pour ses clients entreprises qui souhaitent offrir une expérience personnalisée sur leur plateforme digitale. Jérôme a démarré sa carrière dans la tech il y a presque 20 ans. Il a d'abord fait ses premiers pas dans une société de services informatiques et rapidement, il a rejoint le monde du logiciel en rejoignant Oracle où il y passe 6 années en tant que commercial grand compte puis team leader. C'est en 2011 que sa carrière dans le management prend un vrai tournant lorsqu'il rejoint Axway, un éditeur de logiciels français. Il y crée de zéro une entité de commerciaux sédentaires sur plusieurs pays européens, développant ainsi ses compétences managériales à l'international. Il change plusieurs fois de périmètre, puis rejoint Adobe en 2018. Et c'est depuis décembre 2021 qu'il dirige la direction entreprise et commerciale en charge des offres Experience Cloud. Jérôme est convaincu que le bien-être des collaborateurs est clé pour l'atteinte des objectifs sur le long terme et il a pu le vérifier au cours de ses 12 dernières années de management. C'est ce qu'il nous partage dans cet entretien où nous abordons les émotions dans le management et surtout la gestion de la frustration des collaborateurs. Pour Jérôme, le manager est à la fois un leader et un facilitateur. Sa capacité naturelle d'écoute lui permet de capter les signaux faibles et d'identifier les besoins des autres lorsque la frustration et l'inconfort se font sentir. Cela nécessite évidemment de prendre le temps de connaître chacun et de se rendre accessible, malgré les contraintes de temps et les enjeux du quotidien. Avec pragmatisme et sincérité, Jérôme nous livre son témoignage qui nous conforte dans l'idée que bien-être et performance sont indissociables. Bonjour Jérôme, bienvenue dans Les Infaillibles.
Bonjour Estelle, bonjour Sandy, merci beaucoup.
Salut Jérôme.
Jérôme, je suis personnellement très honorée, très heureuse, en joie de te recevoir sur notre podcast parce que pour nos auditeurs, je leur dis la vérité, on se connaît très très bien, toi et moi. Nous avons d'ailleurs travaillé ensemble, on s'est connus chez Oracle, on a travaillé ensemble plusieurs années. Donc je suis touchée que tu viennes aujourd'hui témoigner à notre micro.
Merci beaucoup, merci d'avoir pensé à moi. Très fier de faire partie en tout cas de cette expérience podcast. Pour moi, c'est la première, donc je suis ravi que tu aies pensé à moi et que vous ayez pensé à moi pour pouvoir avoir cet échange dans les prochaines minutes.
Cette expérience, tu vas voir, elle va être très sympa, aussi bien pour toi, pour nous, que j'en suis sûre pour nos auditeurs. Je sais que tu n'es pas du tout quelqu'un de show-off, donc le fait d'avoir accepté d'être mise un peu en lumière, un peu exposée pour parler d'un sujet qui, certes, est professionnel, mais qui, forcément, on se dévoile un peu, c'est une expérience qui est intéressante et pas toujours facile, donc je te remercie d'avoir joué le jeu avec nous. Aujourd'hui, on va parler avec toi de la lourde tâche, la lourde responsabilité qui incombe au manager lorsqu'il s'agit d'apaiser certaines difficultés, certaines émotions qui peuvent avoir lieu dans les équipes, avec un collaborateur. On va parler d'émotions, de gestion de frustration, de comment on gère en fait ces signaux faibles et ces difficultés quand on doit gérer des équipes, s'assurer de leur bien-être, parce qu'on sait que ça a un impact sur la performance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons nos questions rituelles. Et la toute première est de te présenter, parce que parmi nos auditeurs, il y a plein de gens qui ne font pas partie du même écosystème que toi. Donc, est-ce que tu peux rapidement nous détailler l'activité de ta société ? Donc, tu travailles chez Adobe ou Adobe pour les Français. Donc, parle-nous de Adobe rapidement et de ton rôle en tant que directeur commercial des offres Experience Cloud.
Je pense que tout le monde connaît en fait Adobe par son ADN créatif autour des applications Photoshop, sur la partie photo, Premiere, sur la partie vidéo par exemple, et aussi par la franchise PDF pour toute la partie dématérialisation des documents que tout le monde utilise au quotidien. Ça, c'est un peu notre historique. Et depuis une quinzaine d'années, Adobe a développé une autre offre. On a essayé de créer un segment marché qu'on appelle le CXM, le Customer Experience Management, avec le développement d'une plateforme de services applicatifs. Et avec cette plateforme, on aide nos clients, les marques, à créer, à diffuser et à optimiser le contenu et des applications pour offrir des expériences hyper personnalisées, immersives à leurs clients. Et moi, je suis responsable de cette offre sur la partie France. Et mon quotidien aujourd'hui dans mon rôle, c'est un mix de plusieurs activités. J'ai naturellement le développement de mon business, d'atteindre les objectifs que l'entreprise me fixe, en définissant une stratégie locale, ce qu'on appelle un go-to-market. Et pour y arriver avec l'équipe, il y a bien sûr l'accompagnement business, l'accompagnement au niveau de leur développement, de leur business plan au quotidien et sur l'année. À mon niveau, il y a aussi le management des équipes et le reporting business que je fais au niveau de la direction générale et de la région. J'ajouterai aussi la dimension people management qui est très importante, donc s'assurer de la performance, du bien-être des équipes et avoir une collaboration efficace au sein de l'entreprise, et tout ça dans une bonne ambiance collective.
Ok, et dans ton organisation, en fait, combien il y a de personnes et combien tu as de managers en direct ?
Alors, en manager direct, aujourd'hui, j'ai 4 personnes, pour une équipe totale de près 25 personnes pour l'organisation directe. Après, on a des organisations où, dans le monde des éditeurs de logiciels, on travaille souvent avec une organisation matricielle. Et en l'occurrence, c'est le cas pour nous. J'ai une organisation matricielle qui m'est dédiée. C'est une organisation qui est d'environ une cinquantaine, soixantaine de personnes qui travaillent dans les objectifs de mon activité, donc autour de l'offre Experience Cloud. Et on va retrouver des équipes toujours customer facing, donc on va dire en relation client, d'une cinquantaine de personnes en effet pour aller driver le business sur ce périmètre.
Pour toi, Jérôme, qu'est-ce que c'est être un bon manager ?
Alors, c'est une question qui est pas facile. J'imagine que tous vos intervenants vous disent la même chose. Si je devais le résumer en fait en quelques mots, et c'est peut-être un peu réducteur, mais derrière ces mots-là, ça veut dire pas mal de choses. C'est bien sûr être un leader, et c'est aussi être un facilitateur. Alors, pour moi, l'idée, c'est donner une certaine envie, savoir communiquer avec ses équipes, savoir donner du sens aux objectifs qu'on fixe, que l'entreprise fixe. C'est aussi être exemplaire. On parle souvent du leadership par l'exemple. Donc, c'est être exemplaire dans sa manière de travailler ou assumer aussi ses décisions, parce que la prise de décision, des fois, n'est pas facile. C'est générer de la motivation, c'est définir les priorités auprès des équipes. Et puis, je dirais, un des derniers éléments que moi, je vois qui est très important, c'est être aussi en accord avec la valeur et les valeurs de son entreprise. Pour être bien dans sa peau de leader, il faut qu'on se reconnaisse dans ce que l'entreprise nous demande et dans ce que l'entreprise promeut. Et le côté facilitateur, c'est aider les équipes dans leur quotidien, soit en interne ou en externe, pour soit accéder en effet à des clients qui sont dans notre réseau, soit casser les barrières en interne pour aller accéder aux organisations et aux équipes qui nous donnent des approvals, par exemple, sur des demandes commerciales. Et puis voilà, l'idée, c'est d'ouvrir les portes, en fait, aux équipes pour pouvoir faciliter un petit peu leur quotidien et les aider dans l'atteinte des objectifs.
Et qu'est-ce qui te rend le plus fier ?
Ce qui rend le plus fier, c'est avoir envie de faire réussir ses collaborateurs. En tout cas, c'est mon objectif. Et c'est la réussite des collaborateurs quand on arrive, en effet, à les emmener aux objectifs qu'on leur demande de faire en début d'année. Donc, c'est apprécier le travail, c'est savoir faire avancer ses collaborateurs dans l'objectif de l'entreprise. Ce qui donne beaucoup de fierté, en tout cas à mon niveau, c'est de voir aussi mes équipes évoluer après les avoir recrutées et qui grandissent au sein de l'entreprise. On a plein d'exemples. Moi, j'ai plein d'exemples où, en effet, des personnes qu'on a recrutées sur des postes de commerciaux, soit juniors, soit d'inside sales, soit sur des postes un petit peu différents et qui, au fur et à mesure de leur expérience au sein des entreprises, ils grandissent avec nous, on les fait évoluer, ils prennent plus de responsabilités. Et c'est là où, au final, on s'aperçoit que la collaboration se passe bien, ils sont dans la réussite et que, au final, tout le monde est heureux parce que tout le monde va dans le même sens et tout le monde grandit.
Alors, Jérôme, je te propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le sujet que tu as choisi, la gestion des émotions de ses collaborateurs et plus spécifiquement la gestion de la frustration, puisque la frustration est une émotion. Pourquoi tu as eu envie d'échanger avec nous sur ce sujet ?
Pour plein de bonnes raisons. Je dirais un peu, c'est mon histoire personnelle d'une certaine façon et je vais revenir dessus. Et puis, parce que je m'aperçois aussi que la frustration ou la colère ou le stress, peu importe les émotions qu'il y a derrière tout ça, ça impacte, on va dire, les résultats, ça impacte les performances et ça impacte aussi le bien-être des équipes et l'équilibre qu'on recherche au final dans l'entreprise. Si je reviens un petit peu sur mon expérience pro, plus précisément ma première expérience, j'étais jeune, je sortais d'école et je me suis aperçu que, et ça je ne m'en suis pas aperçu à ce moment-là, mais je m'en suis aperçu en grandissant et en vieillissant, que pendant cette première expérience, je ne partageais pas du tout mes sentiments, je ne partageais pas du tout mon état et mes humeurs, je ne me découvrais pas. Je voulais me montrer infaillible, sans reprendre jeu de mots avec le nom de votre podcast, mais c'est un petit peu, en tout cas, l'image que je voulais rendre, en tout cas, auprès de cette entreprise. J'avais peut-être un manque de maturité, il y a peut-être un manque de confiance. J'avais rien à cacher, mais en tout cas, c'était pas dans ma nature, c'était pas dans la culture de la boîte de travailler dans un contexte où on partageait ses émotions ou ses problèmes, etc. Et au fur et à mesure que j'ai grandi en changeant de société, je me suis aperçu que de se connaître, partager ses sentiments, partager ses craintes, les « je ne sais pas », « je ne comprends pas » font grandir énormément. Ton manager t'appréhende différemment, toi tu appréhendes aussi mieux ce que l'entreprise recherche. Et puis quand tu passes manager, besoin de comprendre comment vont les équipes, ce qu'ils vivent au quotidien, que ce soit pro ou perso. Identifier les signaux faibles qu'on évoquait ou que tu as évoqué tout à l'heure, Estelle, ça peut être sur les humeurs, sur le comportement, impacte beaucoup en fait les performances des équipes. Et ça, c'est hyper important et je sais que c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé personnellement et en tant que manager pour au final avoir une relation empathique, ouverte. J'ai l'impression, en tout cas, j'ai cette impression qu'on peut tout me dire en tant que manager. Et j'essaye d'avoir aussi cette relation bilatérale avec mon management, d'être aussi capable de dire quand ça va, quand ça va pas. Toujours dans un environnement constructif, naturellement. C'est aussi ça, la gestion des émotions, c'est de pouvoir tout se dire, mais dans une logique constructive et développée. Et voilà, c'est un petit peu, je dirais, c'est un peu mon histoire. Et c'est pour ça que je pense que c'est hyper important dans le management d'avoir cette vision sur les émotions et sur la frustration des équipes, sur le stress qu'ils peuvent avoir et qu'ils peuvent ressentir.
Et quand tu dis que tu as beaucoup travaillé justement pour apprendre à te dévoiler auprès de tes équipes ou de tes boss, est-ce que tu peux nous préciser ce que tu as fait exactement ?
Je pense qu'il y a deux choses. Il y a un côté naturel qui se fait en grandissant, en vieillissant, en changeant d'entreprise, aussi avec les valeurs que les entreprises t'inculquent d'une certaine façon. Donc les formations qu'on peut te faire sur la bienveillance, sur le bien-être des employés au sein de l'entreprise, encore plus depuis 3 ans avec cette accélération qu'on connaît. Il y a eu aussi, je dirais, des formations qui m'ont fait prendre conscience à un moment ou à un autre que il y avait des interactions interpersonnelles qui pouvaient être liées à un certain comportement, que ce soit sous forme de stress, chez ton manager ou dans tes équipes. Je pense en l'occurrence à une formation que j'ai faite il y a quelques années, que j'ai trouvé top, qui était le PCM, donc Process Communication Model, qui est une formation qui te permet d'identifier, en fait, sous une base de 6 profils, les personnalités des gens avec qui tu travailles pour, en fait, interagir avec eux. Et c'est vrai que dans ma situation personnelle, ProcessCom m'avait énormément aidé à l'époque à mieux interagir avec mon manager. J'avais un manager qui était brillant, qui m'a beaucoup apporté, techniquement parlant, méthodologiquement parlant, mais qui était très compliqué à manœuvrer, dans le sens où comment j'interagis avec elle, est-ce que c'est le bon moment, et les interactions étaient toujours très très compliquées. On s'attend, on était toujours en attente, on savait pas comment aller entre guillemets nous mordre. Donc cette gestion de stress, cette gestion de frustration qu'on pouvait avoir dans l'échange était hyper compliquée, jusqu'au jour où, en fait, j'ai compris grâce à cette formation le type de personnalité qu'elle était. Et au final, m'apercevoir que pour pouvoir interagir avec cette personne, il fallait faire différemment. Et ce qui m'a permis, au final, de me déculpabiliser aussi sur ma façon d'être, parce que je pensais qu'il y avait un acharnement sur moi à ce moment-là, ce qui n'était pas le cas, je pense, qui était plus, au final, en effet, une personnalité qu'il fallait traiter et qu'il fallait savoir s'interfacer. Donc voilà, c'est ce genre de formation, c'est la diversité des personnes que j'ai pu rencontrer, c'est l'accompagnement que les entreprises que j'ai pu, avec qui j'ai travaillé, qu'ont pu me donner, qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait évoluer et qui m'ont permis, je dirais, de mieux appréhender et de m'apercevoir qu'en tant que manager, c'était un élément hyper important dans la gestion d'équipe.
Donc là, si je comprends bien, grâce à ton expérience, grâce aux différentes formations que tu as pu faire dans certaines des entreprises par lesquelles tu es passé, tu as pu balayer cette fausse croyance selon laquelle les émotions n'ont pas leur place en entreprise.
Je pense que c'est même devenu aujourd'hui un must-have, c'est une nécessité. Je pense qu'il y a les objectifs que l'entreprise nous donne. Il y a bien sûr naturellement le rôle de management qu'on te donne, qui est sur le papier l'atteinte des résultats, mais au final on s'aperçoit, ça fait longtemps qu'on s'en est aperçu, mais on s'aperçoit que le rôle de manager est clé dans le succès de l'entreprise, et que au final les équipes, déjà c'est le fuel de l'entreprise, c'est avec elles qu'on travaille pour délivrer. Moi je suis dans une entreprise où on fait du business et naturellement tout tourne autour du chiffre, de l'engagement, du comportement des équipes et de l'exécution qu'on met dans le quotidien. Et naturellement, quand on a aujourd'hui quelqu'un qui est dans la frustration, qui est dans le stress, je reste persuadé qu'il délivre moins bien, en tout cas différemment, et que aujourd'hui, la gestion de l'émotion ou la gestion du stress ou la gestion de la frustration, c'est une partie clé du quotidien des managers.
Alors, je voudrais mettre en avant là quelque chose que tu nous dis, c'est que tu fais vraiment le lien entre chiffre business et émotion, là où parfois on peut avoir tendance à les opposer. Et tu nous, enfin là, ce que j'entends en tout cas, c'est que c'est vraiment en utilisant les émotions de tes équipes, en travaillant sur leur bien-être, que justement ça va te permettre derrière de répondre à tes objectifs business. Et j'aime bien ce raisonnement. Est-ce que tu veux préciser quelque chose avant qu'on passe à la question suivante ?
Oui, juste je te remercie, parce que je pense que c'est en effet un élément très important. C'est en éliminant la frustration, en partie, c'est compliqué de tout éliminer. Moi, je pense qu'on élimine les frictions qui perturbent le business. Donc, en tant que leader, aujourd'hui, ton objectif, c'est de réussir. En tout cas, c'est d'atteindre les objectifs qu'on te donne. Donc, naturellement, ce qu'il faut, c'est y mettre les moyens pour avoir une obligation de résultat à la fin. Donc oui, c'est complètement ça. Ouais.
Alors justement, on va en venir à comment tu élimines, entre guillemets, les frustrations, parce que du coup, tout l'enjeu, là, ça va être plutôt comment tu les utilises, ces frustrations. Donc ma question, c'est voilà, comment tu fais aujourd'hui déjà pour identifier les collaborateurs qui peuvent se sentir frustrés dans ton équipe, et puis dans un second temps, comment tu vas utiliser enfin, gérer, utiliser ces émotions, c'est-à-dire comment tu les comprends et derrière, qu'est-ce que tu mets en place pour aider tes collaborateurs à les surmonter. Donc, il y a trois questions en une, mais on va y aller progressivement, si tu veux. Donc, la première, c'est comment tu identifies un collaborateur frustré.
On va prendre l'expérience que j'ai sur mon job actuel. Moi, j'ai cette responsabilité depuis maintenant à peu près 1 an et demi avec une création d'équipe. Et naturellement, quand tu crées une équipe, tu as du recrutement et tu récupères des équipes, tu consolides en fait des équipes. Il y a eu à peu près un an et demi, il y a eu un gros travail de fondation sur cette création d'équipes directes et étendues, puisque je considère que le management que j'ai sur mon équipe directe, c'est un management que j'étends à mon équipe étendue. Donc je travaille avec les managers des autres équipes pour avoir au final une approche équipe étendue, drivée par les mêmes objectifs. Sur cette partie-là, j'ai passé beaucoup de temps au départ pour apprendre à les connaître. J'ai eu l'occasion de rencontrer à peu près 50 ou 55 personnes, je ne sais plus combien il y en avait exactement à l'époque. Et j'ai passé, sur le premier trimestre, une partie de mon temps à les rencontrer pour les connaître personnellement, comprendre quels étaient les objectifs. Quelles étaient leurs ambitions, quels étaient les freins qu'ils voyaient dans leur quotidien, de quoi ils avaient besoin pour avancer et pour réussir. Donc ça, je l'ai fait sur le premier trimestre, et sur le dernier trimestre de 2022, donc sur le quatrième trimestre, j'ai repris 30 minutes de mon temps pour passer du temps avec eux, pour voir comment s'était passée l'année, pour voir au final les choses qui avaient réussi, les choses qu'il fallait qu'on change, les choses qu'il fallait qu'on modifie, ce qui me permettait aussi de prendre un peu la température personnel, savoir comment les choses se passaient pour eux, leur faire passer aussi des messages sur comment je voyais 2023 en termes d'organisation, en termes d'approche commerciale, puisqu'on est dans une organisation où tous les ans, on a des ajustements, on customise un petit peu l'organisation, que ce soit commercialement ou que ce soit d'un point de vue stratégie marché. Donc voilà, j'ai partagé un petit peu ma vision sur l'atterrissage de l'année et sur la perspective 2023. Et en fait, pendant ces échanges, en début d'année ou pendant sur le dernier trimestre et sur les autres trimestres, j'ai pas eu de situation d'échange individuel comme ça, mais au final, je suis toujours dispo pour les équipes, que ce soit pro, perso, on vient me voir quand il y a besoin. Moi, j'essaye d'avoir une humeur égale au quotidien, justement, pour avoir ce côté aussi très ouvert à l'échange. Et en fait, pendant ces échanges du premier et du dernier trimestre, ce qui ressort, c'est les signaux faibles sur de la frustration, sur des personnes qui sont énervées par certains éléments. Et là, ce qu'on essaye de faire, ou ce que j'essaye de faire, c'est naturellement de les écouter, c'est de comprendre, d'entendre ce qu'ils disent, c'est d'essayer de les rassurer, c'est d'essayer aussi de donner des exemples de situations où on était dans les mêmes problématiques, mais qu'on a réussi à s'en sortir en faisant ceci, cela. Donc c'est de leur donner un petit peu, je dirais, un effet miroir de ce qu'ils peuvent vivre, mais en y trouvant des solutions. L'idée, c'est aussi de leur apporter des ressources complémentaires. C'est aussi peut-être après d'accompagner le manager direct de cette personne-là dans une approche de coaching différemment. Donc moi, ce qui me permet aussi, avec ce skip level que j'ai avec les équipes, de pouvoir revenir auprès de mes managers et leur dire, écoute, dans ton équipe, il y a cette personne qui fait ça ou qui ressent ça en ce moment. Donc peut-être qu'il faut passer plus de temps aussi avec lui dans le coaching, dans le quotidien, dans l'accompagnement commercial. Voilà, c'est des éléments qui me permet de mieux manager au final une vision globale de l'équipe et leur apporter les moyens, les ressources, peut-être leur proposer des formations aussi, que ce soit des formations soit techniques, soit sur du soft skills. Moi, je suis très, très orienté sur le développement du soft skills, parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, on est très hard skills. Et l'idée, c'est d'avoir cette capacité, je ne sais pas, formation pour présenter ou parler en public ou gestion de son emploi du temps, parce qu'il y en a qui ont quand même quelques difficultés des fois à gérer leur agenda. Voilà, c'est ce type de formation, ce type d'accompagnement, ce type de feedback. Et moi, je suis persuadé que le feedback is a gift, pour reprendre un terme anglais. Et je suis énormément dans l'échange avec les équipes au quotidien.
Là, tu nous as donné une réponse globale finalement aux trois questions que je t'avais posées. Ce que je te propose, c'est qu'on redécoupe tout ça et qu'on retourne déjà sur l'identification. Comment toi, tu identifies les collaborateurs qui sont frustrés ? Alors, moi, ce que je comprends là dans ce que tu dis, c'est que ça passe par une étape très importante de connaissance de tes collaborateurs, même avant qu'ils aient des frustrations. Ça, c'est, enfin, on a beaucoup de nos invités hein, qui reviennent sur l'importance de connaître ces équipes. Donc là, tu remets cela en avant. Moi, j'avais une question par rapport à ça. Tu dis, j'ai passé mon temps, et puis tu t'es repris, tu dis, j'ai passé mon temps, enfin, j'ai passé une partie de mon temps, mais il y a une vraie question derrière ça. C'est comment toi, par rapport au poste que tu occupes et à tes responsabilités, comment déjà tu as trouvé le temps pour voir non seulement tes directs, si j'ai bien compris, mais aussi l'ensemble de tes équipes ?
C'est une question de priorité. Donc, tu fais la place qu'il faut dans l'agenda pour pouvoir, en effet, avoir ces échanges. Donc tu élimines certains éléments. Où tu fais du stretch.
C'est-à-dire ?
Donc, ça veut dire que ce que tu ne fais pas dans la journée, tu le récupères sur ton temps le soir, en deuxième partie de soirée, comme beaucoup font déjà, pour aller faire en effet ce que tu n'as pas réussi à faire dans la journée. Donc, après, comme ça reste potentiel, enfin, ces deux séquences qui ont eu lieu deux fois l'année dernière, je me dis que ça serait bien de mettre ça en place, alors peut-être sur. Peut-être pas sur l'ensemble de l'organisation, mais peut-être plus sur mon organisation directe, donc sur les 20-25 personnes. Donc, ça ferait gagner aussi un petit peu de bande passante. Mais oui, c'est une question de priorité. Donc, je priorise cet aspect-là dans mon agenda à ces moments de l'année.
Je voulais aussi revenir sur un type de réunion que tu organises, hein, puisque c'est le Skip Level Meeting. On en a déjà parlé dans le tout premier épisode qu'on a fait avec Nandi Dosu. Mais je remets une petite couche là pour ceux qui n'auraient pas écouté le premier épisode. Donc là, tu fais bien ces entretiens avec donc, tes reports directs, mais aussi avec tes N-2, voire tes N-3. Comment ils le vivent, tes N-1, que tu ailles rencontrer directement leurs équipes ?
Alors déjà, je le fais toujours en leur demandant leur accord, en leur disant, écoutez, voilà, par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place, est-ce que vous êtes OK ? Est-ce que vous êtes d'accord que je puisse aller, en effet, solliciter un échange avec vos équipes directes ? Jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de no-go. Donc, les équipes sont plutôt toujours preneurs, en tout cas preneuses. Donc, sur cet aspect-là, il n'y a pas de point de blocage. Donc, et ce qui permet à un moment ou à un autre aussi d'avoir une vision un peu plus globale quant à ton manager qui vient de voir en disant tiens, j'ai telle personne dans l'équipe qui est pas bien en ce moment. Le fait de l'avoir déjà rencontré, de le connaître, ça te permet d'avoir aussi un échange plus constructif avec des feedbacks qui seraient différents si tu ne le connaissais pas. Moi, je pars d'une logique que j'ai encore la chance d'avoir une organisation directe de 25 personnes, une organisation étendue à peu près d'une cinquantaine, soixantaine de personnes, on se connaît tous. Je ne les connais pas tous personnellement à savoir combien d'enfants ils ont, etc. Mais globalement, je les connais tous. Et le fait de pouvoir partager ça avec l'équipe de management de l'organisation, ça nous permet d'avoir une vision en fait très opérationnelle de comment les choses se passent, de ce qu'on devrait changer aussi, de ce qu'on devrait mettre en place. Donc au final, tout est bénéfique. En tout cas, pour l'instant, on n'y voit que du positif.
Donc une fois que tu es passé par cette étape de connaissance, comment ça se passe ? En général, c'est plutôt tes collaborateurs qui viennent te parler de leur frustration, c'est toi qui sens qu'il y a un truc qui cloche ou alors tes managers qui te remontent le point. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Comment tu gères ?
Je me permets de compléter d'ailleurs, parce que tu disais comment tu ressens ça, tu parlais de signaux faibles. Donc, c'est quoi les signaux faibles ?
Après, c'est une histoire de personnalité, c'est une histoire de personne. Tu as ceux qu'on connaît, qui sont très extravagants, qu'on ne voit plus à un certain moment, parce qu'ils sont la tête sous l'eau, parce qu'on sent qu'ils ont le visage fermé. Enfin, c'est des choses qu'on reconnaît assez, on va dire, visuellement. Et là, on peut en effet très vite imaginer qu'il y a quelque chose qui perturbe. Soit ils ont la tête sous l'eau, donc ils ont une problématique de bande passante et de gestion de temps, donc gestion des priorités. Soit en effet, on les voit plus, c'est-à-dire qu'ils viennent de moins en moins au bureau. Donc là, potentiellement, on a une problématique différente. Et c'est là où globalement, les signaux faibles, il faut les activer, il faut aller les enclencher, il faut aller en tout cas qualifier. Donc soit en effet, c'est le manager c'est son manager qui va prendre le relais, qui va discuter avec eux. Ou alors, moi, en fonction des personnes, je peux aller aussi discuter avec eux, soit autour d'un café, soit autour d'un déjeuner, pour essayer d'appréhender un petit peu la situation. Donc une fois qu'on a identifié qu'il y a un vrai sujet, on essaye de comprendre le sujet. Soit c'est un vrai sujet structurel où là on peut apporter des réponses structurelles, opérationnelles, avec en effet un accompagnement différent, avec des ressources complémentaires, avec une répartition des rôles peut-être aussi différemment, avec un support du management sur certains sujets, pour pouvoir faciliter un petit peu le quotidien et la frustration qu'il y a pu y avoir. Ça peut être aussi une histoire de com, ça arrive souvent, on est dans un métier où les commerciaux sont très attentifs au paiement des commissions. Ça peut être un sujet qu'il faut qu'on traite, donc par défaut c'est là où il y a le rôle de facilitateur que j'évoquais au départ, qui va aller pinguer le patron de comp, donc compensation globale, pour aller en effet essayer de régler la situation et au final avoir le paiement qui va bien au bon moment. Et là on revient après dans un aspect opérationnel, et souvent c'est des perturbations très simples, hein. C'est j'ai trop de taf, je ne sais plus où donner la tête, vous nous demandez beaucoup trop de choses. On est dans une entreprise qui est à l'américaine, donc qui est drivée par des process. À mon niveau, je l'évoquais encore cette semaine à ma DG, à ma boss, où je lui disais je prends la responsabilité d'alléger un petit peu les demandes en ce moment, parce que je sens que c'est très chargé et que ça peut exploser. On est en début d'année, donc en début d'année, dans notre métier, on a préparation des business plans, préparation de la stratégie qu'on veut mettre en place, on doit aligner les équipes, on doit fournir une prestation de présentation. En parallèle, on est sur la fin du premier trimestre bientôt, donc on doit commencer à sortir du chiffre. Il y a de la montée en compétences, qu'il y ait des commerciaux qui ont des nouvelles responsabilités. Donc il y a un ensemble de choses. Il y a de la formation en plus. Donc il y a un ensemble de choses qui font qu'à un moment ou à un autre, il faut réussir à prioriser. Donc à mon niveau, ce que j'essaye de faire, c'est de prioriser ce qui est le plus important dans le bien-être de l'entreprise, en tout cas dans la recherche de performance de l'entreprise, et dans au final aussi le bien-être des équipes, qui est de réussir à trouver le bon équilibre entre ce qu'on attend en termes de résultats sur la fin du premier trimestre, avec les objectifs opérationnels qu'on nous demande à fin janvier, à fin février, qui sont les formations doivent être finalisées, les stratégies des plans de compte doivent être finalisées, etc., etc. Donc, à mon niveau, avec mes managers, ce qu'on décide, c'est d'essayer à un moment d'alléger en effet les demandes corporate pour pouvoir au final lisser un petit peu la charge de travail et un petit peu, je dirais, redonner de la bande passante, peut-être moins de stress aussi aux équipes pour qu'elles arrivent à sortir la tête du guidon et revenir un petit peu sur un rythme où on arrive à retrouver du souffle, donner l'énergie et ne plus être sous l'eau tel qu'on peut le vivre par moment sur certaines périodes de l'année.
Tu vas comprendre les raisons de l'insatisfaction de tes collaborateurs, puisque derrière une émotion dite négative, parce qu'avec Estelle, on aime bien dire qu'une émotion n'est ni négative ni positive, mais c'est juste un message. Mais en tout cas, derrière les émotions dites négatives, puisque la frustration, hein, ça va être un mix entre la colère et la tristesse ou la déception, tu vas aller chercher quel besoin de ton collaborateur est insatisfait. Et là, tu nous donnes l'exemple de deux causes de frustration qui sont soit la charge de travail, soit une rémunération qui n'est pas assez importante, donc qui sont des causes sur lesquelles tu vas avoir la main, toi en tant que manager, potentiellement. Est-ce qu'il y a d'autres causes que tu identifies qui génèrent de la frustration chez tes collaborateurs ?
La non-atteinte des résultats, clairement, c'est une frustration, c'est un stress. On est dans un métier, dans le business du logiciel, où on est rythmé par ce qu'on appelle du forecast, donc c'est combien on va faire dans le mois, combien on va faire dans le trimestre, avec tout le business qu'on doit développer en parallèle pour les trimestres d'après. Donc on est dans un rythme effréné. C'est notre modèle de vente. Tous les éditeurs sont pareils. Et je pense qu'il y a beaucoup d'industries qui vivent la même chose, mais d'une façon peut-être un petit peu différente. Et c'est vrai que ce stress permanent peut influencer et être négatif sur le résultat. Moi, je vois aussi du stress positif, puisque je pense que nous, dans un profil commercial, la recherche du résultat, la recherche de la commission, qui est au final aussi un aboutissement pour beaucoup, et l'intérêt du job qu'on a aujourd'hui font que ça peut être un bon stress positif pour aller délivrer au final plus et aller chercher ce que les collaborateurs cherchent, qui est le développement personnel de ses compétences, la reconnaissance associée aux résultats, la reconnaissance aux beaux dossiers qu'on a signés, aux belles signatures. Donc le stress, la non-atteinte des résultats, sont des éléments qui peuvent venir perturber la performance, l'atteinte des objectifs et au final la bonne collaboration au sein de l'entreprise et des équipes pour aller vers l'objectif de l'entreprise.
Ce que j'entends, c'est que la frustration, enfin, on peut voir des effets positifs à la frustration, puisque finalement, derrière la frustration, bah, se cache aussi l'ambition de tes collaborateurs. Donc du coup, s'il n'y a pas de frustration, tes collaborateurs n'avancent pas. Donc la frustration, c'est aussi pour tes collaborateurs et pour toi une façon de progresser, d'avancer, de vouloir aller plus loin dans les résultats. Donc ça, c'est la première chose que j'ai entendue dans ta réponse. Et sur ce type de frustration, justement, liée à la non-atteinte des résultats, quelle réponse, toi, tu apportes en tant que manager ou quelle réponse tu mets en place avec tes collaborateurs ?
La non-atteinte des résultats, c'est ce qu'il y a de plus compliqué parce qu'en effet, on est tous incentivés en fait, à l'objectif et à l'atteinte des objectifs. C'est notre quotidien. Nous, aujourd'hui, en tant que leader ou en tant que manager, en tant qu'entreprise, ce qu'on cherche, c'est le succès de tout le monde. Donc, c'est que tout le monde participe aux résultats de l'entreprise et de laisser personne derrière. Donc, on met en place des approches managériales avec une vision de KPI aussi, d'une certaine façon, savoir aujourd'hui ce qui pêche dans le résultat et dans l'atteinte des résultats. Est-ce que c'est une question de compétences techniques ? Est-ce que c'est une question de compétences commerciales ? Est-ce que c'est une question d'exécution ? Est-ce que c'est une question relationnelle avec les clients ? On essaye en tout cas d'évaluer. Donc, l'entreprise a mis en place un modèle d'analyse qui permet de valider globalement, en fonction de ses KPI, la situation individuelle de chacun et globalement comment on va projeter. Comment ils vont individuellement se projeter sur l'atteinte des résultats en fin d'année. Donc, on essaye de travailler ces deux perspectives, l'aspect instant T et l'aspect perspective fin d'année. Et en fonction de ça, on essaye d'avoir le bon support auprès des équipes, que ce soit par un plan de formation très spécifique, que ce soit une meilleure appréhension des enjeux de nos solutions, par exemple. Donc, on essaye de les accompagner sur une meilleure compréhension, une capacité à mieux pitcher. Aujourd'hui, il y a ceux qui ont, dans notre business, on regarde beaucoup, par exemple, le nombre d'opportunités, ce qu'on appelle le pipeline qu'ils ont, donc le volume de pipeline qu'ils ont. Et quand on sent qu'il n'y en a pas suffisamment, c'est qu'est-ce qui manque aujourd'hui à ce territoire, à ce commercial, pour aller générer plus de pipe. Donc, on met en place des supports, de l'aide, du coaching directement par le manager, par le first-time manager qui va l'aider à développer ces aspects qui lui fait défaut aujourd'hui pour aller chercher la performance et revenir dans des critères plus standards attendus par l'entreprise. Donc, il y a un travail de fond, il y a un travail d'analyse, il y a un travail de coaching, il y a un travail d'accompagnement, soit par de la formation, soit en effet par des choses un peu plus spécifiques.
Donc là, dans les différents exemples que tu nous donnes, j'ai l'impression que tu as quand même la main en tant que manager pour accompagner ton collaborateur à surmonter sa frustration. Est-ce qu'il t'arrive aussi d'avoir des frustrations qui ne sont pas de ton ressort, c'est-à-dire sur lesquelles tu n'as pas la main, et que ce soit des frustrations qui sont liées à la vie perso ou à des motivations sur lesquelles tu n'as pas de levier en fait ?
Alors oui, ça arrive. Quand c'est professionnel, à un moment ou à un autre, par l'expérience et par... moi, ça va faire 5 ans que je suis chez Adobe, donc je commence à bien connaître l'entreprise naturellement. Donc, il y a certaines choses sur lesquelles je peux activer et certaines choses sur lesquelles on ne peut pas activer.
Comment tu gères quand tu ne peux pas activer ?
Je pense qu'il faut être franc, faut être dans la franchise, faut être dans la transparence. Il y a des choses sur lesquelles on peut en effet avancer, sur lesquelles on peut accompagner les équipes, et quand c'est pas le cas, moi je suis très direct. Souvent, de toute façon, c'est un peu ma nature. Je dis les choses, que ça soit vraiment positif, je les félicite. Quand c'est un peu plus compliqué, je dis aussi quand les choses vont moins bien. Et j'explique, je factualise en général, je dis voilà, ça c'est pas bien pour telle raison. Donc je suis souvent dans la transparence avec les équipes et dans la communication. Et à un moment, quand c'est peine perdue, d'une certaine façon, je pense qu'il faut être assez franc en leur disant, écoute, ça franchement, c'est un sujet sur lequel on va avoir peu de marge de manœuvre. Je sais que c'est frustrant. Je pense qu'il faut l'accepter et on regarde ce qu'on est capable de faire ailleurs pour au final peut-être faciliter d'autres choses.
Donc là, Jérôme, moi j'entends que finalement, il y a deux catégories, on va dire. Il y a les frustrations sur lesquelles tu n'as pas de levier, tu n'as pas la main, et là, tu joues la carte de la transparence, tu es direct et franc avec le collaborateur, et tu l'accompagnes dans son acceptation de la situation. Et puis, il y a d'autres frustrations sur lesquelles, justement, tu travailles à l'analyse, le coaching, la formation, tout ce que tu nous as partagé juste avant. Et tu sens que tu peux en faire, finalement, une ressource. Moi, c'est ça que j'entends. Tu peux t'appuyer là-dessus pour rebondir et faire en sorte que le collaborateur s'améliore. Est-ce que tu aurais un exemple concret d'une situation où tu t'es appuyé sur la frustration, finalement, pour en faire quelque chose de positif ?
Oui, j'ai eu l'occasion, en fait, sur... Deux cas un peu similaires, deux situations où, en tant que manager, on te demande en fait de récupérer une personne. En l'occurrence, encore une fois, c'était un commercial, puisque mon expérience est que dans le commercial de management, qui était une personne qui était, en tout cas, ces deux personnes étaient sous-performants, en tout cas, et qui n'avaient pas les attentes et les résultats attendus. Et donc souvent dans ce genre de situation, c'est des personnes qu'on peut demander à sortir ou qu'on change de manager pour au final avoir une approche un peu différente et peut-être les redynamiser ou alors justement confirmer que les personnes ne sont pas adéquates au job. Donc ça m'est arrivé deux fois où j'accueille ces deux personnes dans mes équipes. Et qui, après avoir discuté avec elle, premier échange, me dit « j'ai rien contre toi, mais en revanche, je comprends pas, je suis énervé, on me met à l'écart, on me demande pas mon avis, globalement, ça me va pas ». Et donc, dans ce genre de situation, il y a deux façons de faire. C'est soit on dit « ok, peine perdue, je laisse tomber ». Je la laisse dans son coin, cette personne, ou ces personnes, parce qu'en l'occurrence, c'était deux personnes auxquelles je pense, et puis je m'en sépare quand il faudra m'en séparer, ou alors je le vois et je le vis différemment. Donc moi, j'ai plutôt pris la deuxième option, parce qu'aujourd'hui, le recrutement est un métier qui est très compliqué aussi, ça prend du temps, c'est aussi un risque, risque de faire le mauvais choix, de la mauvaise personne, qui au final... au-delà de ne pas avoir les qualités est toxique parce que c'est toujours, le recrutement est toujours compliqué quoi qu'on en dise. Donc je pars du principe que les personnes qu'on me demande d'accueillir, je travaille avec elles pour comprendre au final ce qui les a énervées et comment je peux en tirer au final un bénéfice pour l'entreprise naturellement, mais pour elles aussi et pour les faire rebondir. Et en l'occurrence sur ces deux personnes, je me souviens que on s'est souvent lié dans notre métier à une problématique d'alignement compétences-territoire. Donc un territoire, c'est globalement, c'est le portefeuille client qu'on te donne en début d'année, l'objectif qu'on te donne, et on te dit, tu as tant à faire sur ce territoire et sur ce portefeuille client ou prospect. Et donc l'idée, c'est de comprendre aujourd'hui là où elles ont des qualités, là où elles ont les compétences, et là où elles sont aujourd'hui en position de force pour aller faire au final quelque chose de là où elles sont capables de transformer en fait l'essai. Donc sur ces deux personnes, je comprends en fait que alors, les deux situations sont un petit peu différentes. Je peux donner un exemple concret d'une personne qui et en fait on l'avait perpétuellement positionné sur ce qu'on appelle des grands comptes, des sociétés complexes, donc les sociétés du CAC 40, et qui après avoir discuté avec cette personne-là, je m'aperçois que c'est pas là où elle est le plus à l'aise. C'est pas là où, au final, elle arrive à exploiter ses qualités, capable aujourd'hui d'identifier chez ce client toutes les personnes elle est adressée, être capable de tenir un discours de haut niveau avec les grands patrons. C'est là où je sens qu'en fait, elle est en difficulté et je sens qu'elle n'est pas forcément en position favorable si je devais lui redonner ce type de compte. Donc, je décide, en partageant avec elle, en lui disant... J'ai l'impression, je pense, qu'est-ce que toi tu en penses, si on allait plutôt vers ce type de portefeuille client, donc un portefeuille client plutôt de clients mid-size, donc plutôt des ETI par exemple, est-ce que tu ne serais pas plus à l'aise avec cette approche ? Donc on est parti du principe qu'on devait tester, qu'au final, après un an, ça a été un succès total. Nous, on a une reconnaissance dans notre métier et chez les éditeurs de logiciels, on connaît tout ça. On a ce qu'on appelle le President's Club. C'est toutes les personnes qu'on veut achiever, qu'on veut performer, sont invitées par la Corp à 3-4 jours, une semaine, à ce qu'on appelle au President's Club. Donc, c'est en général le top 50, le top 100 des vendeurs et des commerciaux de l'entreprise. Et en l'occurrence, cette personne-là, après l'avoir repositionné et recréé un contact et une relation de confiance sur ce que moi j'attendais d'elle, sur ce qu'elle attendait de moi, sur le nouveau positionnement de son portefeuille client, pendant 3 ans, cette personne a été au President's Club. Donc elle s'est refait une image de marque en interne, elle a retrouvé confiance, on va dire, en elle aussi, d'une certaine façon, elle a retrouvé au final un équilibre aussi, plaisir dans son quotidien. Personnellement, en plus, ça s'était bien passé avec elle, donc au final, une collaboration plutôt active et plutôt intéressante. Donc voilà, donc je pense que quand on arrive un petit peu à bien qualifier les problématiques de cette frustration, de ce qui a vraiment bloqué ou de ce qui bloque, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réussir à capitaliser sur les qualités des collaborateurs, au final, eh ben, je pense que c'est une bonne méthode pour aller chercher le succès, transformer cette frustration en succès, transformer cette émotion en positif, et au final, tout le monde est gagnant, l'entreprise est gagnant, moi je suis gagnant, et naturellement, cette personne est gagnante.
J'adore ton exemple, Jérôme. Je voudrais revenir sur 2 messages qui me paraissent importants. Alors, j'adore ton pragmatisme sur le recrutement. Effectivement, recruter, ça prend du temps, ça coûte cher, et en plus, on peut se planter. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, le fait que tu travailles vraiment sur la motivation de tes collaborateurs avant de les laisser partir ou de leur demander de partir. Ça, c'était le premier point sur lequel j'avais envie de rebondir. Et puis, la deuxième chose, c'est que je trouve qu'à vraiment à travers cet exemple, on voit que l'émotion, finalement, n'est ni bonne ni mauvaise, mais c'est un message, et que derrière, c'est hyper intéressant de comprendre quel besoin profond se cache derrière l'émotion d'un collaborateur pour ensuite pouvoir y répondre. Donc voilà, je trouve que vraiment dans cet exemple, on voit que l'émotion peut, pour le manager, être une vraie ressource. Et tu vois, souvent, en tant que manager, on peut avoir peur de ses propres émotions ou des émotions de ses collaborateurs. Et ce que je trouve intéressant, là, c'est vraiment, on voit que toi, en tant que manager, tu te sers de l'émotion pour faire évoluer, pour faire progresser ton collaborateur.
Oui, dans ce que j'entends là dans votre échange, Sandy et Jérôme, c'est le fait de se dire on peut capitaliser sur des forces qui sont présentes dans l'entreprise. Mais il faut y passer un peu de temps pour les identifier et accompagner les collaborateurs à les exploiter au mieux. Plutôt que d'aller recruter à l'extérieur, c'est bien d'aller recruter à l'extérieur évidemment, mais avant de se dire on va se séparer de quelqu'un pour aller recruter, déjà prenons le temps d'identifier comment on peut mieux capitaliser sur les collaborateurs déjà présents. T'as un exemple concret là-dessus ?
Oui, j'arrive dans une entreprise pour prendre un rôle de manager, pour créer une équipe, entre autres, qui était en début de construction. On me demande de créer en fait une nouvelle équipe commerciale. Et j'ai une des personnes et j'ai un des leaders de l'entreprise qui me dit « Bon, cette personne-là, globalement, faut s'en séparer. » Et bon, je ne la connaissais pas, donc j'avais aucun avis sur cette personne. Et je leur dis, en fait, pourquoi ? Manque de performance, manque de résultats, ok. En termes d'engagement, écoute, oui, c'est quelqu'un qui est plutôt bien engagé, plutôt bien intégré dans l'équipe. Je dis, ok. Donc dans ces cas-là, j'ai besoin de 2 trimestres pour l'évaluer. Et si dans 2 trimestres, je considère qu'en effet, il n'y a pas le bon comportement, il n'y a pas les bonnes qualités, les bonnes compétences, je m'en séparerai. Mais si vous vouliez vous en séparer, il fallait le faire avant que j'arrive. Maintenant que je suis arrivé, vous me laissez 2 trimestres. Donc, mon management me dit « Ok, banco, vas-y ». Entre-temps, je recrute d'autres personnes aussi pour construire l'équipe. Et cette personne-là, j'y discute beaucoup avec elle. Quelqu'un qui était très senior déjà, qui avait beaucoup d'expérience et qui, globalement, on ne lui faisait pas à l'envers. Donc, j'ai eu une approche assez franc avec lui en lui demandant quelles étaient ses motivations et qu'est-ce qu'il voulait vraiment faire. Est-ce qu'il était prêt à se réengager avec moi ? Est-ce qu'il était prêt aujourd'hui à se réengager avec l'entreprise et à repartir sur un nouveau challenge et avec un nouveau manager qui ne connaissait pas naturellement, puisque moi, je venais d'arriver sur ce job. Et c'est une personne qui a été très franc aussi avec moi. On a mis les choses à plat. Et puis, au final, j'ai vu comment il fonctionnait. Donc, j'ai essayé de lui offrir un portefeuille, encore une fois, client qui convenait peut-être un peu mieux de ce qu'il avait l'année d'avant, avec une diversité de secteurs d'activité, pour être un peu moins mono-industrie. Et puis, après la première année, il faisait partie de mon top 3 des commerciaux. La deuxième année était top 2. Donc voilà, je pense que c'est encore une fois, c'est comment s'appuyer sur ce qui lui faisait défaut, sur ce qui lui manquait et ce dont il avait besoin pour le faire rebondir. Moi, ça m'a permis de naturellement capitaliser sur ses qualités, sur ses compétences, parce qu'il avait une expertise que je recherchais, puisque ça faisait partie de mon scope et de mon industrie. Donc on a au final été, je pense, plutôt bon business partner dans l'exercice. Puis bon, après voilà, nos vies se sont séparées pour d'autres raisons. Moi, j'ai pris un autre job. Lui, il est resté avec un nouveau manager. Et puis, quelques temps après, il est parti sur une autre opportunité. Mais voilà, c'est un autre exemple sur lequel, en s'appuyant et en comprenant surtout les objectifs et les ambitions de chacun, que ce soit ceux des équipes ou alors ceux de l'entreprise, ou en l'occurrence, mes objectifs aussi, mes ambitions, on arrive certainement à trouver un équilibre. Alors, ça ne marche pas à chaque fois. Mais en tout cas, dans cet exemple-là et dans l'exemple que j'ai donné précédemment, écoute, ça a été plutôt un succès et j'en suis ravi.
Ce que j'entends à travers ce bel exemple, au-delà de ce succès, hein, c'est que toi, tu as eu du courage au départ parce que tu arrives sur ce nouveau job, ce nouveau poste et puis tu aurais pu tout simplement appliquer ce que ton management disait. Et finalement, non, tu as dit, tu as assumé en fait tes convictions et puis tu as eu le courage de dire, non, je vais prendre le temps de connaître cette personne et d'envisager plus tard comment je gérerais éventuellement la séparation avec cette personne. Donc c'est chouette.
C'est une belle histoire.
C'est une belle histoire, exactement.
Après, j'ai naturellement fait des séparations. J'ai eu aussi des séparations. Ça arrive pour tout manager. C'est savoir aussi à un moment se séparer des personnes qui n'ont plus l'envie, qui n'ont plus l'engagement. C'est pas une question de personne, ou c'est très rare. C'est très rare de se séparer de quelqu'un parce que la personne est vraiment compliquée. C'est vraiment, moi je trouve, souvent une question d'engagement avec l'entreprise, qui a plus les mêmes valeurs que l'entreprise et qui, d'une certaine façon, est peut-être fatiguée et qui a besoin d'un nouveau challenge. Donc soit le changement de manager, ce qu'on évoquait à un moment, peut être un bon élément pour relancer la machine. Et quand ça ne marche plus, la meilleure façon, c'est... C'est de réussir à changer peut-être de job en interne si l'entreprise est capable d'offrir une diversité de jobs, ou alors quand il n'y a pas cette capacité, c'est de changer d'entreprise, soit d'une façon un peu plus directe, soit une façon un peu sur leur volonté. Donc on a tous vécu ça, je pense, en tant que manager, à un moment ou à un autre, avec des situations qui ne sont pas faciles à vivre et qui sont compliquées à gérer.
Alors justement, effectivement, là tu reviens sur peut-être tes propres émotions à toi, parce que tu dis on a tous vécu ça en tant que manager et on a tous vécu des situations pas faciles à gérer. Et depuis tout à l'heure, on voit que les émotions s'invitent régulièrement dans ton job de manager et tu nous as essentiellement parlé des émotions de tes collaborateurs. Et là j'aimerais que pour conclure cet entretien, on termine sur toi, tes propres émotions, tes propres frustrations. Comment tu gères cette abondance d'émotions
Je dirais que c'est ce qui m'anime un peu. Pour moi, le rôle de manager ou de leader, en tout cas, quand tu es responsable d'une équipe, il y a cette vie collective, cette vie et cette animation d'équipe. Et moi, je me nourris de tout ça, en fait. Je me nourris des échanges. Moi, je suis très curieux. Je pose beaucoup de questions. J'aime bien comprendre. J'ai un côté très analytique qui font que je m'intéresse aux autres. Et c'est ce qui me fait avancer, en fait. Et c'est un peu ce que je vis au quotidien, dans ma vie professionnelle et aussi dans ma vie perso. Donc pour moi, c'est une forme d'inspiration de voir que les autres évoluent, grandissent, que j'arrive à les faire grandir. Donc au final, c'est un de mes triggers pour me faire grandir aussi. J'essaye d'avoir en tout cas Alors, je dirais que j'ai une image de marque de quelqu'un qui est toujours dans une humeur stable, parce que c'est aussi ma nature de l'être. Je vois toujours les choses de façon positive, même quand le business est compliqué. On essaye de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc voilà, c'est un peu mon état d'esprit. Moi, je suis un persévérant, je suis un passionné. Donc quand je suis engagé, quand je crois en ma mission, quand je crois aux autres, en fait, c'est ce qui me fait avancer, c'est ce qui me fait réussir et c'est ce qui m'anime. Donc la gestion des émotions, ça en fait partie. J'ai aussi de la frustration, ça m'arrive.
Alors justement, comment tu la gères ? Parce que là, j'entends que ça fait partie de ton job de gérer les émotions des autres et c'est même quelque chose qui t'anime, qui te motive et qui donne du sens à ton quotidien de manager. Néanmoins, je suppose qu'il y a aussi des émotions désagréables qui s'invitent dans ton quotidien. Comment tu gères ta frustration à toi ?
Alors, je partage beaucoup plus que ce que je faisais quand j'étais plus jeune. Je partage beaucoup. Je partage mes émotions avec mon entourage, pro et perso, avec mon manager. Très important d'avoir une bonne relation. Après avoir vécu plusieurs vies avec plusieurs managers, à un moment, on choisit au final le manager avec qui on veut bosser, d'une certaine façon. Je ne dis pas que c'est facile à chaque fois. Mais en tout cas, moi, c'est un peu ce que j'essaye de mettre en place aujourd'hui dans mon évolution, dans mon changement. Parce que j'attache beaucoup d'importance au relationnel, au quotidien, professionnellement, donc naturellement avec mon manager direct aussi. Donc voilà, ça c'est très important. C'est ce qui me fait aussi des fois, annihiler quelques frustrations qu'on peut avoir. Parce qu'à deux, quand on discute, c'est beaucoup plus facile, on voit les choses différemment. Ce que moi j'essaye de faire avec mes équipes, c'est ce que je demande aussi à mon management. Donc naturellement, ça c'est hyper important. Et puis après, c'est aussi le côté personnel, c'est le côté exutoire que tu peux avoir à l'extérieur. Donc moi, je fais du sport qui me permet aussi de libérer ce qui est toxique par de l'effort physique. J'ai deux sports dans lesquels je suis assez engagé et ce qui fait que ça m'apporte aussi cet équilibre par rapport au boulot. Puis naturellement, j'ai ma vie de famille qui m'aide aussi dans ce quotidien.
Merci beaucoup, Jérôme. C'était un bel échange. En tout cas, moi, je suis très touchée par tout ce que tu nous as partagé. Et j'ai noté plusieurs choses qui peuvent justement accrocher nos auditeurs. Tu nous as partagé ton histoire sur le fait qu'au départ, quand tu as commencé comme manager, tu voulais te montrer infaillible, donc il fallait surtout pas montrer ses émotions. Et finalement, au fur et à mesure, tu as compris qu'au contraire, tu allais y gagner à aller sur ce terrain-là, en fait, laisser les émotions s'exprimer et vivre. Tu as compris que tu y gagnerais en bien-être, en performance et en acceptant finalement de te montrer un peu plus tel que tu étais. Et tu as même dit que d'ailleurs c'était très important dans le management parce que c'est ce qui allait participer à la performance. Parce que soyons pragmatiques, on est dans le monde de l'entreprise et on est manager parce qu'on doit driver la performance de ses équipes. Mais la performance ne peut pas en tout cas arriver ou en tout cas être sur le long terme s'il n'y a pas le bien-être. Et donc dans le bien-être, ça veut dire accompagner la gestion des difficultés, des émotions dites négatives, donc de la frustration parmi les membres des équipes. Et que toi, ce que tu as identifié comme étant parfois le défaut des managers, c'est de ne pas prendre en compte ces éléments de bien-être et de faire comme si la frustration n'existait pas. Et donc, ta manière de fonctionner à toi pour les identifier, c'est d'être dans la captation, on va dire, des signaux faibles, d'être très à l'écoute, de tenter de comprendre, de donner des exemples aux collaborateurs pour qu'ils puissent se projeter, de travailler sur la réassurance, de faire du feedback, d'être vraiment dans l'échange. Et tu y passes du temps, tu prends du temps. Donc moi, quand je rencontre des managers qui me disent « mais j'ai pas le temps de faire tout ça » ou « c'est pas mon job, je ne suis pas psy, je ne suis pas leur parent, j'ai pas le temps de m'intéresser à ce qui va pas chez eux, moi je suis là pour assurer la performance », eh bien, on voit que quelqu'un de ton niveau qui a autant de responsabilités prend ce temps parce que tu l'as priorisé. Et je trouve que ça, c'est un super message. Donc, merci beaucoup de montrer la voie de ce que peut être un leader qui est aussi facilitateur. Voilà, entendra qui veut mon message. Donc, pour conclure, est-ce que tu veux bien partager avec nos auditeurs un conseil pour notamment le manager qui démarre, précisément ?
Oui. Ça se résume en quelques mots, c'est communiquer, échanger et apprendre. Je dirais que il faut être en contact permanent avec son manager, les équipes RH aussi, pour avoir peut-être le bon coaching, pour avoir aussi les bonnes formations, accès aux bonnes formations. Je dirais qu'il faut demander des feedbacks aussi à ses équipes pour un peu customiser comment on manage. C'est bien, je le disais tout à l'heure, feedback is a gift, donc ça va dans les deux sens. On a tous plus ou moins des aptitudes de management, mais ce qui fera au final la différence, c'est sur le terrain, l'énergie que nous y mettons, les feedbacks et l'accompagnement qu'on aura pour progresser le plus vite possible.
pour nos auditeurs non anglophones, feedback is a gift, c'est faire un retour à l'autre, c'est un cadeau. Voilà, c'est le traducteur. Une chose que tu ferais différemment si tu devais regarder ton propre parcours de manager dans le rétroviseur?
Je demanderais certainement plus de formation au départ. Si on regarde mon début mon début d'expérience de manager, j'ai sauté dans le grand bain en créant une équipe internationale dans 7 pays européens avec un manager américain. Donc ça a été le grand écart pour moi.
En effet.
Ça a été aussi un accélérateur avec les différences de culture, de marché, etc. Mais je demanderais en effet de la formation.
Et la dernière question, une ou plusieurs sources d'inspiration?
Alors j'en pense à plusieurs. Naturellement, j'ai un podcast que j'écoute régulièrement, c'est celui de Jean-Philippe Courtois, qui est un des exécutifs VP de chez Microsoft, qui s'appelle Positive Leadership, et qui a beaucoup d'intervenants de tout type d'environnement, donc c'est très intéressant.
Mm-hmm. Tu écoutes en plus des infaillibles, donc on est d'accord.
Absolument. j'ai une autre source que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'ai eu la chance de la rencontrer, c'est le docteur Gila Clara Kessous, qui est une universitaire, une chercheuse, une actrice et aussi une coach de dirigeant d'entreprise. Pour information, elle avait été nommée en 2012 artiste de l'UNESCO pour la paix, à la sortie des publications sur le grand livre de la psychologie positive, par exemple. Et en fait, elle propose des techniques, des exercices, en l'occurrence, parce que c'est ce qui m'a... Et c'est un petit teaser, parce que ça serait bien que les personnes qui écoutent, s'ils veulent en tout cas s'intéresser à ce que fait Gila Clara, aller voir un petit peu les podcasts auxquels elle a participé, en l'occurrence, sur celui de Jean-Philippe Courtois, où elle propose une technique, un exercice pour prendre sa température. Et comment faire pour que toutes mes facultés soient à jour pour être les mieux exploitées. Et c'est un exercice d'auto-évaluation. Elle appelle ça le SPIR, ou le SPIRE. Ça veut dire spirituel, physique, intellectuel, relationnel et émotionnel. J'en dis pas plus, parce que je suis pas expert. En revanche, très inspirante, plein d'énergie. J'ai adoré l'échange que j'ai eu avec cette personne. Donc, si je peux intéresser les autres personnes à écouter ce que fait Gila Clara, ou en tout cas à ce qu'elle a pu écrire et à ce qu'elle peut le représenter, je pense que c'est une bonne inspiration. Et le dernier élément, c'est plutôt un outil que j'utilise de temps en temps, qui est un outil web qui s'appelle GetAbstract. Et GetAbstract, c'est, je crois, 25 000 résumés de livres. Donc pour les personnes qui ont un emploi du temps débordant, et que vous voulez lire des livres sur des sujets autour du management, du leadership, de la psychologie par exemple, gestion des émotions, et ben GetAbstract permet d'avoir des accès à des résumés relativement bien faits et qui nous font gagner du temps. Alors certes c'est condensé, c'est pas un livre complet, mais moi je l'utilise aussi ponctuellement pour m'enrichir et en gagnant du temps à côté.
Ce qui ne m'étonne pas étant donné ta curiosité que tu évoquais tout à l'heure. Et c'est très chouette. Merci mille fois, Jérôme. Encore une fois, très honorée, très touchée. Et petit coucou à toutes les personnes qui nous connaissent tous les deux. Je suis sûre qu'ils prendront beaucoup de plaisir à t'écouter dans ce podcast.
Merci à vous deux. Merci pour le temps que vous m'avez consacré et puis d'avoir pensé encore une fois à moi. C'était une belle première expérience de podcast et un grand merci à vous deux.
Merci beaucoup, Jérôme. À bientôt.
Au revoir.
À très bientôt. Cet épisode vous a plu ? À vous de jouer maintenant. Pour cela, rien de plus simple. Ajoutez-nous dans Apple Podcasts, Deezer ou Spotify dans vos émissions préférées. Mettez-nous un like ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Et surtout, si vous voulez une équipe de managers au top dans votre boîte, demandez à votre RH de nous appeler et partagez notre épisode avec vos collègues. À bientôt sur Les Infaillibles !